Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, Le costume du président et la 5e République, une série documentaire de Christelle Le Polothek réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a le résultat de ces élections et ce quinquennat inédit qui commence. Et puis il y a des questions. Qu'est-ce qui fait qu'une fois élu, un jour on remplisse le costume et qu'on incarne la fonction? Qu'est-ce qui fait de l'homme un président? Y a-t-il l'ombre du roi soleil, du petit lever et des perruques poudrées cachées dans le placard républicain? Et puis il y a cette idée qu'il faut apprendre à être président après avoir été simple mortel et ne pas laisser trop de traces de doigts sur les miroirs biseautés. Et enfin, cette impression que ceux qui restent pour toujours, ce sont des pierres ou des blocs de béton qui renouvellent la perspective et parfois aussi des gestes ou de grands discours. Alors pour commencer, les personnages. Un architecte sorti de nulle part, une romancière qui a tout compris, un historien du bicentenaire, De Gaulle, VGE, Chirac, Mitterrand, un photographe, le jour J, et des journalistes. Ensuite, le décor. La place de la Bastille, la perspective de la Défense, un concours, deux mains tendues et tenues serrées, un musée multicolore, l'histoire comme un boulet, Douaumont, des roses, des grâces malvenues et des rêves de modernité ou d'éternité. Aujourd'hui, 3e épisode, attention, on inaugure.
L'un des temps forts de ce bicentenaire est l'inauguration de l'Opéra Bastille, l'un des chantiers voulus par François Mitterrand. Le chef de l'État en avait pris la décision voici 7 ans. 30 chefs d'État, 2000 invités étaient présents. Michel Vial.
Quel producteur aurait pu imaginer pour sa générale une assistance aussi prestigieuse, une salle aussi brillante? Ce sont en effet 33 chefs d'État ou de gouvernement, pas moins, qui ont inauguré avec éclat le dernier haut lieu de l'art lyrique. Dernier arrivé et chaleureusement applaudi par les 2700 personnes présentes à cette soirée exceptionnelle, François Mitterrand installé à la corbeille au milieu des hommes et des femmes parmi les plus puissants de la planète. Sur la scène, gigantesque et impressionnante, le gratin du chant lyrique. Ruggiero Raimondi, Placido Domingo, Barbara Hendricks entre autres, un programme ouvert et refermé sur la Marseillaise. Il a surtout donné les trois coups des festivités haut de gamme du bicentenaire de la Révolution française.
Le costume du président et la 5e République. Le bâtisseur face à l'histoire. Christelle Le Polothek et Vincent Deck. Avec la 5e République, puis la mort de Gaulle, le temps des guerres, des conquêtes et de l'impérialisme à tout craint semble définitivement révolu. À défaut de faire l'histoire, le président se contente de s'inscrire dans une généalogie glorieuse de la France. Pour manifester sa puissance et sa magnificence, le monarque républicain n'a plus qu'à bâtir des musées, des bibliothèques et, à l'occasion, des arcs de triomphe. Pompidou a créé le centre Beaubourg, Giscard est à l'origine du musée d'Orsay, de la Cité des sciences de la Villette et de l'Institut du monde arabe, mais c'est François Mitterrand qui incarne le mieux cette figure du président bâtisseur. Dès septembre 81, quelques mois à peine après son élection, il annonce avec une gourmandise non dissimulée le lancement d'une série de grands travaux dont l'aboutissement doit coïncider avec les cérémonies du bicentenaire de la Révolution en 89, ainsi que le projet d'une exposition universelle qui, elle, ne verra jamais le jour.
Nous célébrerons le bicentenaire de la Révolution en 1989. Il faut préparer cela dès maintenant. Nous bâtirons une cité internationale de la musique. Nous allons mettre en pratique la Fondation européenne pour la culture, ce qui nécessitera aussi certaines constructions, ainsi que la Maison pour l'Islam. Et j'ai engagé les premières conversations pour une exposition universelle en 1989. J'ai également pris la décision, mesdames et messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination.
Parmi les réalisations mitterrandiennes, la très grande bibliothèque, l'Opéra Bastille, la pyramide du Louvre, le ministère des Finances à Bercy, la Grande Arche de la Défense a une place toute particulière, tant par l'histoire mouvementée de sa construction que par son emplacement emblématique à la tête défense, l'enjeu présidentiel de la Ve République depuis De Gaulle. Laurence Cossé en a tiré un livre, La Grande Arche.
La Défense est comme un sismographe du pouvoir à chaque gouvernement et président de la République successif. La Défense change beaucoup, l'idée même qu'on se fait de ce quartier utopique change selon qu'on est sous le général de Gaulle, sous la présidence de Pompidou, celle de Giscard, celle de François Mitterrand. Giscard d'Estaing est absolument terrorisé par la hauteur des buildings. Et notamment, sous Pompidou, il y avait déjà eu plusieurs projets pour la tête défense, dont un très beau projet du grand architecte Peille. Tout le monde avait eu peur de la hauteur de ce projet. C'était une espèce d'énorme bâtiment qui était dans l'axe. Bref, quand Giscard d'Estaing est élu, lui dit « Oh là, oh là, on arrête tout, rien ne doit se voir à partir de l'étoile de ce qui se construit maintenant à la Défense. » Là-dessus, donc ça fait une douzaine d'années de tergiversations, d'hésitations, de projets successifs, abandonnés les uns après les autres, à grands frais, n'oublions pas ça. François Mitterrand est élu en mai 81. Il annonce assez vite qu'il va parrainer un grand train de construction. C'est ce qu'on a appelé après les grands projets de Mitterrand. On décide qu'il va y avoir un grand concours fait dans les formes. Le concours est lancé fin 82. Alors, le règlement a fait hurler les membres du jury parce que le règlement dit « Messieurs les jurés, vous choisirez quatre projets et sur les quatre, c'est le président de la République qui choisira celui qui a sa préférence. » C'est le syndrome monarchique à la française. Or, ces jurés qui sont pour une grande partie étrangers, ils menacent de démissionner, on leur dit « Vous allez faire deux projets gagnants et deux projets suivants. » Bon, c'est ce qui se passe. Les quatre projets sont retenus. Personne ne sait exactement de qui ils sont. Le président Mitterrand se fait faire quatre maquettes qu'on installe à l'Élysée. Et pendant plusieurs semaines, il tourne autour, il fait venir ses invités, il fait venir certainement des proches dont on ne sait pas très bien lesquels. Et finalement, le président Mitterrand choisit l'Arche. Voilà. Personne ne sait qui est l'architecte et on découvre avec stupéfaction que l'architecte est un inconnu. Donc, Spreggelson gagne le concours. Il faut savoir qu'il a si peu envisagé de gagner le concours qu'il est parti à la pêche. On ne sait pas où il est. Bon, il finit par revenir. Tout le monde est curieux de savoir qui est cet inconnu qui a gagné ce grand concours prestigieux. Lui-même est très beau, très séduisant, un peu mystérieux. Il répond de manière un peu symbolique. Enfin, voilà, il plaît beaucoup. Spreggelson a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, et il a dessiné quelque chose qui s'inscrit dans la perspective. Donc il a cette idée absolument géniale, au lieu de fermer la perspective, de l'ouvrir par une immense fenêtre, une immense porte. En fait, il dessine un grand porche, un grand portique. Sur cet axe, il trace une espèce d'appel d'air. Et pour lui, évidemment, c'est un monument d'abord symbolique, un arc de triomphe de l'humanité, c'est comme ça qu'il l'appelle. Elle s'inscrit magnifiquement dans la perspective. Elle est optimale à cet endroit-là de Paris. Voilà.
Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a une tradition présidentielle, on peut dire ça, de laisser quelque chose à l'histoire. Je parle de Monsieur Pompidou, du président Giscard d'Estaing, vous avec le Grand Louvre, la tête défense, l'Opéra Bastille. Alors, bien sûr, c'est pour la France, c'est pour la grandeur de la France, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de prestige personnel ?
Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, naturellement, et le penser. Mais je crois que seul un président de la République dispose du temps, 7 ans. Souvent, il faut plus de 7 ans. Mais quand le train est lancé, il ne peut pas s'arrêter.
Monsieur le Président, est-ce que vous aimeriez qu'on parle du style Mitterrand ? Je veux dire, à travers les choix culturels que vous avez faits, on peut dégager quelques grandes lignes. Vous aimez les traits très beaux, les choses très épurées. Est-ce qu'on peut parler de vos styles qu'on pourrait opposer, certains journaux l'ont fait ce matin, à votre personnalité qu'on dit plus cachée
de... Si on disait qu'il y a un style Mitterrand, j'en serais flatté, je l'avoue. Mais il n'y en a pas. Et si j'ai pris la décision finale, dans chaque cas, c'est aussi parce que j'avais un certain goût pour les formes géométriques pures. Cela correspond, je crois, que les formes pures et simples me plaisent plus que les autres.
Mais le président Mitterrand, comme le président Pompidou, comme le président Giscard d'Estaing, est tout de même préoccupé par la hauteur. On sait que large va faire 108, 110 mètres, quelque chose comme ça. On sait qu'elle se verra évidemment de l'Arc de Triomphe, mais qu'elle se verra même du Louvre, d'une partie des Champs-Élysées. Et ça ennuie beaucoup le président Mitterrand. Il est d'accord sur le principe, mais maintenant qu'il sait que le bâtiment va être très haut, il a des états d'âme. Il dit « Je suis comptable de la perspective devant la nation ». Il ne sait pas très bien quoi faire et l'architecte Spreckelsen et son conseil ingénieur Retzel lui disent « Vous savez, on peut faire une simulation. On peut construire une espèce de plaque qui sera blanche comme sera blanc le toit de l'arche et puis on la hisse à 100 mètres de hauteur au-dessus du trou qui se trouve en 83 à l'emplacement de la tête défense ». Et puis vous, de l'Elysée, des Champs-Élysées, de l'Étoile, et ben vous voyez ce que ça donne. Ah, très bien, dit le président de la République, on va faire ça. L'opération, elle est restée dans l'histoire comme le grand levage. Alors, c'est bien joli, une simulation comme ça, mais comment fait-on pour hisser une grande plaque qui fait un hectare, mais une grande plaque à 100 mètres de haut? Et Retzel disent, on pourrait faire ça avec des montgolfières, ce serait poétique. Et finalement, on décide de faire une chose assez classique dans le bâtiment, qui est d'aller chercher une des deux grues seulement en France, susceptibles de hisser un matériau à 100 mètres de haut. Une grande plaque blanche a été construite, on la hisse une première fois, ça se passe mal, elle commence à tournoyer, on la hisse une deuxième fois, ça semble aller, il fait très beau, Spreckelsen saute dans un taxi, fonce à l'Elysée qui n'est pas loin, et dit au président de la République, venez voir. Le président de la République sort, ravi par la gaillie du coq, tout seul. Il se met au milieu des Champs-Élysées et le président de la République peut visualiser. Bon, il voit que c'est pas trop haut, mais ce qui l'ennuie, c'est que c'est un peu bleuté. Alors l'architecte lui dit, bah oui, on est en fin de journée, c'est l'éclairage du coucher du soleil qui fait ça. Le matin, c'est rose. Ah bon, dit le président de la République, j'aimerais bien voir ça le matin. Donc le lendemain matin, on recommence. Le président de la République, il sait bien aussi. Et voilà, toutes les autorisations maintenant sont données pour que soit construite la Grande Arche.
Il va y avoir cet épisode que vous décrivez, Laurence Cosset, autour du choix du marbre.
Oui, alors c'est encore un chapitre de cette histoire de présence très grande du président de la République dans la construction de l'Arche. Le président de la République veut savoir en quel matériau elle va être construite. Alors il faut que vous sachiez que l'Arche, elle est en béton hein, et que le marbre qu'a voulu Spreckelsen ne faisait que la recouvrir. Donc il va à l'Elysée avec un bloc de marbre qu'il estime admirable. Et le président de la République est enchanté par le marbre, et d'autant plus enchanté qu'il récupère le bloc de marbre à l'issue de l'entretien. Le problème, c'est qu'on sort de l'Elysée et la maîtrise d'ouvrage disent à M. Spreckelsen, l'architecte, le problème, c'est que votre marbre, il est beaucoup, beaucoup trop cher. Alors, c'est tout un feuilleton très long. Spreckelsen est furieux parce que c'est un autre marbre que celui qu'il avait choisi qui est finalement retenu. Et chaque fois qu'il y a une tension, il va demander au président de la République d'arbitrer. À chaque fois, il va lui dire « on m'embête ». Et le président de la République lui dit « c'est aux artistes de faire prévaloir leur vue ». Voilà. Alors, le prince, président de la République, François Mitterrand, non seulement a choisi le projet, non seulement arbitre à la demande de Spreckelsen, mais il veut être informé de tout. Et pas seulement pour la Grande Arche d'ailleurs, ça va extrêmement loin. Il veut choisir le verre qui va recouvrir la pyramide du Louvre, il veut choisir le bois des fauteuils qui vont se trouver à l'intérieur de l'opéra Bastille. Voilà. Vous voyez ce que c'est que le caprice du prince? Ça, c'est la France.
Président, vous vous êtes sûrement interrogé plus que quiconque sur le pouvoir. Que c'est pas là la manifestation la plus symbolique du pouvoir, se dire ici, bien moi je décide de faire quelque chose. Est-ce que c'est pas ça le pouvoir?
C'est une forme déterminante du pouvoir. Et pour avoir, dès mon adolescence, puisque j'étais étudiant à Paris, pour avoir beaucoup circulé, je me suis beaucoup promené dans Paris, dans ma tête, c'est vrai, à tout moment, je rebâtissais.
Ah oui, déjà.
Oui, oui, déjà. Bon, je ne pensais pas que j'en aurais l'occasion. Ouais. Mais quand j'en ai eu l'occasion, je ne l'ai pas raté.
Oui, parce que dans les livres d'histoire, qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce qu'on va dire, je ne sais pas, il y a eu telle loi sous le septennat ou 14 années du président Mitterrand? Parce qu'une loi, ça peut se défaire, tandis que ça, ça ne bouge pas. Oui. Est-ce que vous travaillez pour les livres d'histoire? Mais, en faisant ça, vous pensez
à ça? Il y a autre chose. Il y a le fait que nous sommes précisément au cœur de l'histoire de France. Oui. Puisque c'est à côté, tout à côté, que se trouve la tour de Philippe Auguste, la tour de Louvre. C'est là que, on peut le dire, le royaume s'est fait. C'est là que la France s'est faite. Bien, je pense que c'est assez exaltant de penser qu'à la suite, que d'y ajouter, même avec modestie, parce qu'après tout, je ne prétends pas être celui qui décide de ce qu'est l'esthétique en France, mais d'y avoir contribué.
Patrick Garcia, l'histoire joue aussi un rôle important dans cette incarnation présidentielle.
L'histoire a une valeur particulière. Parce que l'histoire, dans le discours politique, c'est ce qui montre la continuité de la nation. C'est ce qui va indiquer qu'il y a du continu et qu'il y a aussi du futur. Pourquoi c'est particulier à la France ? Parce que, en fait, l'histoire de France est une histoire tourmentée, marquée par les révolutions, marquée par les conflits politiques. Donc, l'affirmation d'une continuité de la France est quelque chose de tout à fait important. Et le président de la République, dans la constitution de la Ve République, en fait, se faisant le locuteur de la France, est amené à se faire le locuteur de son histoire. Donc, il y a une mobilisation fréquente de l'histoire par les présidents, à travers des commémorations, les anniversaires. Les présidents vont le faire avec des rapports différents à cette histoire. Si on veut schématiser, hein, on pourrait presque on peut les regrouper. Hein. On aurait un premier cas de figure qui est celui de Gaulle et de François Mitterrand. L'un a été chez les Jésuites, l'autre a été chez les Maristes. Hein, tous les deux ont été lecteurs de Barrès. Ils appartiennent à un milieu social qui n'est pas très différent. Hein. Et tous les deux, on pourrait dire qu'ils sont dans l'histoire nationale de plein pied. Ils se sont mis en scène tout petits comme étant destinés à y jouer un rôle. De Gaulle rimaillait hein, le sacrifice quand il était adolescent. Mitterrand récitait les discours des révolutionnaires à la Convention. Ils ont un rapport charnel à une France qui est une France, dans leur imaginaire, qui est quand même une France rurale, hein, provinciale. Et en tout cas, une France dont le passé peut être source d'enseignement pour le futur.
François Mitterrand a visité ce matin le chantier de la Tête Défense, dont l'arche gigantesque, plus de 100 mètres de côté, marquera l'achèvement. La construction de cette arche avance au rythme d'un étage, tous les 4 jours. On en est maintenant aux 2/3 de la hauteur définitive, et Jean-Pierre Anquiri était ce matin sur le chantier.
105 mètres de côté, 70 mètres de profondeur, Notre-Dame tout entière, avec sa flèche, tiendrait à l'intérieur de la grande arche de la Défense. Les deux parois verticales, hautes de 35 étages, sont aujourd'hui terminées pour le gros œuvre. Leur gigantesque carcasse qui s'élève dans le ciel ne donne encore qu'une idée assez vague de ce que sera le monument une fois achevé. Le chantier titanesque emploie plus de 2000 personnes. Cette structure fabuleuse par son gigantisme doit être travaillée comme un bijou. Elle sera revêtue de marbre blanc ou gris. Chaque plaque de marbre de Carrare est taillée et numérotée sur place de manière à conserver une veine identique. Ainsi, Johann Otto von Spreckelsen, aujourd'hui disparu, et son architecte associé Paul Andreu vont-ils réaliser ce dont rêvait, dit-on déjà Colbert, parfaire la perspective tracée par le nôtre à partir de la cour carrée du Louvre.
Il faut savoir que l'arche a été construite extrêmement vite. Le chantier commence en juillet 85 et le président Mitterrand a dit tout doit être terminé en juillet 89 parce que ce sera le bicentenaire de la Révolution française, il y aura de grandes fêtes en France et je veux inaugurer un certain nombre de ces grands monuments que je fais construire à cette occasion. Il faut savoir que construire un bâtiment comme celui-ci, c'est une gageure. Enfin, je vous passe le détail, mais il a fallu inventer un béton nouveau, des procédés de construction nouvelles. L'entreprise Bouygues, qui est déjà à l'époque le numéro 1 mondial de la construction, fait des prodiges techniques. Et elle est terminée juste à temps pour trouver sa place dans les célébrations du bicentenaire de la Révolution.
Et effectivement, en fait, le bicentenaire, on y pense dès 1982. Et là, on est bien dans la logique d'un passé qui prépare le futur. Hein. Et Mitterrand va complètement s'engager dans ce discours qui est, en définitive, le sien, qui est son discours culturel. Son regard de toujours, il va faire plusieurs discours, de discours à la jeunesse, par exemple au jeu de paume, en rappelant qu'il y a eu des combats dans la Révolution française, mais qu'à courage égal, tous les combats ne se valaient pas. D'où la question des valeurs, hein, et c'est bien du côté des valeurs de la Révolution française qu'il penche. Donc on a un choix historiographique important, et puis il y a des choix esthétiques. Mitterrand accepte le projet audacieux de confier la revue des Champs-Élysées à un publicitaire, Jean-Paul Goud. Et ma foi, cette revue qui est en rupture complète avec toute reconstitution analogique du passé est un immense succès médiatique et populaire. Millions de personnes sur les Champs-Élysées qui descendent, quoi, des milliers en tout cas, et fort de ce succès, Mitterrand en profite. Donc oui, c'est un geste qui va permettre à Mitterrand d'apparaître comme le légataire de l'histoire de France. Il s'agit de montrer que ce passé révolutionnaire est toujours la promesse. C'est aussi une façon à bon compte de soigner, disons, une image de gauche.
François Mitterrand a eu l'idée de choisir le toit de l'Arche pour que s'y tienne le G7. Il a fait venir beaucoup plus que 7 chefs d'État pour les fêtes du bicentenaire. Il y en a une bonne trentaine. Et ça se passe au sommet de l'Arche, qui a été entièrement aménagé pour cela, avec un mobilier conçu pour cette unique occasion. Notamment une très très belle table qui est tellement large qu'il faut la hisser en pièces détachées au sommet du toit par hélicoptère. Et il y a à la clé, le soir, une fête extraordinaire dont il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2017, il ne pourrait pas y en avoir de telle parce que nous n'avons plus l'argent pour la payer. C'est une fête magnifique. Jacques Lang a été ordonnateur. Il y a des milliers d'invités, un grand cocktail au sommet de l'Arche, une illumination de l'Arche, Urban Sax, troupe de joueurs de saxophone et funambules qui jouent, qui montent et qui descendent de l'an de l'Arche, des éclairages magnifiques. Probablement, François Mitterrand aurait beaucoup aimé que son nom soit attaché à cette Arche. Jusqu'à présent, c'est pas le cas.
Cet aspect bâtisseur de Mitterrand, cette volonté de laisser des traces, c'est quoi pour vous ? C'est une sorte d'exaltation de son pouvoir
Oui, que ce soit s'inscrire dans l'histoire, exercer une forme de toute puissance, être bâtisseur, c'est la même chose, si vous voulez, c'est la même chose. Il faut une très solide volonté de puissance pour accéder à la fonction de président de la République. Il faut un très grand désir de s'inscrire dans l'histoire. Et si possible, pour laisser des traces, il vaut mieux s'intéresser à l'architecture. Tout le monde sait que les bâtiments survivent à l'homme. L'arche, même en cas de tremblement de terre, elle tiendrait le coup. Donc on sait, et on le sait depuis fort longtemps, depuis l'Antiquité, que quand on construit un arc de triomphe ou un bâtiment, ce bâtiment vous survivra. D'où d'ailleurs un lien très très étroit entre l'architecture et la mort. Hein. Les grands bâtiments, de par leur pérennité dans le temps, ils sont donc des sortes de stèles, des sortes de tombeaux. Voilà. Si vous voulez vous inscrire dans l'histoire, le plus sûr moyen, c'est de construire quelque chose de très grand, de très beau, qui se verra de loin, peut-être de l'autre bout du monde, et qui vous survivra 200, 500, 1000 ans, 2000 ans.
Avant son premier septennat, une autre manière de s'inscrire dans l'histoire pour François Mitterrand sera de sceller, symboliquement, la réconciliation franco-allemande, largement entamée sous la Ve République par ses prédécesseurs, De Gaulle et Adenauer, Giscard et Schmitt. À l'ossuaire de Douaumont, avec Helmut Kohl, il incarne une image forte, intense, qui est restée dans tous les esprits.
Bonsoir. François Mitterrand et Helmut Kohl sont allés cet après-midi se recueillir ensemble à Douaumont et à Verdun. François Mitterrand et Helmut Kohl se tenaient la main pendant qu'on jouait les deux hymnes nationaux. Ensemble, ils ont salué la mémoire des 700 000 soldats qui sont tombés durant les 10 terribles mois qu'a duré cette bataille en 1916. L'amitié franco-allemande a donc trouvé le ciment du souvenir, Henri Gershoun, même le temps s'y était mis.
Le froid, la pluie et les rafales de vent, un temps épouvantable que connaissent trop bien les survivants de l'enfer venus ici en grand nombre, un temps qui a donné à cet anniversaire son indéniable marque de vérité. Aucun discours, pas de grand défilé militaire. C'est vrai que 68 ans après, à la puissance symbolique de cette rencontre ne pouvait correspondre que la simplicité de la cérémonie.
Frédéric Delamure, vous êtes photographe, vous êtes le photographe officiel du Quai d'Orsay. Et en 1984, le 22 septembre exactement, vous avez photographié la poignée de main entre le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl. Vous avez ici d'ailleurs les planches contact sous les yeux.
Oui, j'ai eu la chance d'être au bon endroit quand il fallait. Alors là, vous voyez donc ces milliers et milliers de croix. Et en plus, ce jour-là, il pleuvait, il y avait une sorte de bruine. Et c'était très... Au présent, ce serait pas le bon mot, mais c'est vrai que cette grisaille, cette bruine qui tombait, donnait une atmosphère très particulière. Là, on voit donc le président Kohl et Mitterrand qui s'avancent. Vous voyez, on les voit bien en garde à vous. Donc
oui,
là,
vous les voyez face à face, là, en fait, hein, avec les
voilà,
grands mortuaires.
Voilà, mortuaire, donc qui était couvert d'un... La dépouille était découverte d'un moitié d'un drapeau allemand et d'un moitié français, et puis il y avait deux couronnes de fleurs. Et là, hop, ils se prennent la main. Donc vous voyez, ils regardent bien tous les deux leurs mains, mais j'ai pas le moment. Mais moi, je me suis fait surprendre, comme tout le monde s'est fait surprendre. Et pendant tout l'hymne national français, ils se sont tenus la main. Et vous voyez, là, on voit derrière eux toutes les délégations, et de l'autre côté, il y avait effectivement l'ossuaire de Douaumont. Où sont mélangés là, tous les restes de corps, aussi bien allemands que français. Ce bâtiment est absolument énorme et, si bien souvenir, il fait plusieurs centaines de mètres et il est très très haut. Et face à cet ossuaire, il y a ces champs de croix avec complètement vallonnés.
On sentait quelque chose de solennel.
L'ambiance était particulière, ne serait-ce que je prends toujours cet exemple qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'ils avaient mélangé les soldats français et soldats allemands. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre d'un côté les soldats allemands, d'un autre côté les soldats, tout ça a été mélangé. Donc ça avait une grosse force symbolique. Alors moi, sur le moment, en fait, vous savez, on est pris dans nos photos. J'étais sur le moment très étonné, mais je n'ai pas vu le geste, que c'est vraiment une question qu'on m'a souvent posée, qui a commencé. Si c'est le président français ou si c'est le président allemand. Et honnêtement, je n'en sais rien, je n'aurai pas la réponse. Mais ça avait une sorte, je me souviens toujours dans mon viseur, c'était tout à fait émouvant et complètement inattendu.
C'est ça qui est très, très fort aussi dans cette photo, c'est elle qui va symboliser la réconciliation franco-allemande. Pourquoi, d'après vous, elle a eu un si fort retentissement, cette photo ?
Moi je pense qu'elle a eu c'était si fort, c'est quelque part il y a eu la volonté de Kohl et Mitterrand, de faire un geste comme ça, très fort d'amitié, aussi bien devant les vivants, c'est-à-dire devant les militaires franco-français et allemands, et que les délégations qui étaient invitées, que devant tous ces morts, en fait. C'était un témoignage devant les morts et les vivants. Et je pense que c'est ça qui a eu un grand symbole sur le moment. Moi, je donne aussi cet exemple qui m'avait beaucoup frappé. Il y a quelques années, j'avais exposé ces photos et tout à coup, il y a une femme qui est arrivée, qui était relativement âgée, et elle me dit « Quand j'ai vu cette photo, je dis ça, c'est la fin de la guerre. » Et devant nous, elle s'est mise à pleurer.
Mais vous avez réussi à incarner parfaitement un moment historique
C'est incarné, j'ai fait mon travail et, entre guillemets, j'ai eu la chance d'être au bon endroit quand il fallait.
Et c'est donc une photo qui a eu autant de retentissement en Allemagne, en fait, en Allemagne qu'en France.
Oui, quand Mitterrand est mort, Je sais que dans toutes les consulats français et ambassades françaises en Allemagne, c'était cette photo qui était mise pour les condoléances pour la mort de Mitterrand.
Rapport à l'histoire, on pourrait l'identifier à travers le président. Ça peut sembler étonnant de les associer, mais qui serait composé par les trois derniers présidents, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Jacques Chirac, en prononçant le discours du 16 juillet 1995, le discours aux Veldives, qui reconnaît le fait que la France a pu commettre des crimes et la responsabilité de la France dans les agissements de l'État français, la France étant incarnée par la République, en fait, il ouvre un processus de révision du récit national. Jusque-là, la France était innocente.
Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire la douleur de celles et de ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer aussi parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français. Il y a 53 ans, le 16 juillet 1942, près de 10 000 hommes, femmes, enfants, juifs furent arrêtés à leur domicile au petit matin et rassemblés. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Suivront d'autres rafles, d'autres arrestations, à Paris et en province. 74 trains partiront vers Auschwitz. 76 000 déportés juifs de France n'en reviendront pas. Nous conservons à leur égard, une dette imprescriptible. La Torah fait à chaque juif devoir de se souvenir. Une phrase revient toujours qui dit « N'oublie jamais que tu as été un étranger et un esclave en terre de Pharaon. » 50 ans après, fidèle à sa loi,
pour vous, Michel Cotta, le discours du Veldives, c'est vraiment le moment où Chirac va incarner la fonction présidentielle.
Je trouve que le Veldives, il entrait dans une voie où ses prédécesseurs n'étaient pas entrés. Là, il a vraiment, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, et il est entré sur la pointe des pieds. Mais enfin, il est entré dans un domaine où De Gaulle, Mitterrand avaient la même position. Moins on en parle, mieux ça vaut. Le régime de Vichy, c'est une parenthèse. Ça ne fait pas partie de l'histoire de la République. Bon, alors, De Gaulle l'avait fait pour des raisons, évidemment, de cohésion nationale après la guerre. Mais Mitterrand n'était pas revenu là-dessus. Et le premier qui dit « Nous sommes responsables », Nous sommes responsables. C'est pas simplement des gens qui n'existent pas, entre parenthèses, un Vichy qui a disparu de l'histoire, qui est responsable. Non, c'est nous tous, c'est les Français. Et ça, d'abord, je savais que ça lui tenait à cœur depuis longtemps. Et ensuite, ça, c'est un discours où on s'inscrit comme un président de la République et où je pense que ça a été le moment le plus important et qui a été déterminant dans son attitude de président de la République. Il allait plus loin que les autres, il ouvrait une nouvelle voie.
Chirac ouvre un nouveau regard sur le récit national. De quoi hérite-t-on ? Voilà, on va avoir une colonne des passifs et une colonne des actifs. Mais alors que le discours du 16 juillet devait fermer un cycle, le discours du 16 juillet ouvre un cycle de révision. D'abord, il n'arrête rien sur la question de Vichy, tout au contraire, elle ne cesse de monter. Mais elle va se poser sur la question de la colonisation, sur la question de l'esclavage, etc. etc. Donc on a là quelque chose qui change, hein, le surmoi national, et en sort brisé. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment refaire du national ? Comment refaire de la fierté nationale ? Avec l'idée que la fierté nationale, c'est ce qui fait le lien entre les Français. C'est ce qui fait le français, avec cette vieille conception française que le français, il est le produit de l'histoire, d'une intégration dans l'histoire. Donc comment on raccommode ? Et donc ça, on va le trouver, alors de façon extrêmement différente, évidemment, mais quand même, comme la réponse à une même question, on va le trouver à la fois chez Nicolas Sarkozy, lettre de Guy Môquet, hommage à Boulogne, référence constante à la résistance. On va retrouver la même chose chez Hollande, qui consiste à faire entrer deux hommes et deux femmes issus de la résistance, ou encore en reconnaissant le massacre commis à Paris en octobre 1961. Donc on est rentré dans cette renégociation du récit national et cette tentative de le réaffirmer, de le recoudre en quelque sorte.
Je pense que Jacques Chirac n'a cessé de redire aux Français que notre supériorité de philosophique qu'on attribuait à l'Occident et notamment à la France, d'une certaine façon, était une supériorité factice, parfois dangereuse, et qu'il fallait y réfléchir et la remettre en cause. Je pense que de ce point de vue-là, il a eu une influence importante dont on voit aujourd'hui les effets dans ce qui se passe, dans les réflexions qu'on peut avoir sur tous les sujets d'aujourd'hui, du choc des civilisations supposé aux interventions, évidemment, en Syrie, en Irak, etc. Donc, je crois que de ce point de vue-là, il s'est posé comme un président qui est capable d'avoir une vision du monde et une sorte de projection quand même dans l'avenir. Ça pose une vision du monde où, effectivement, l'interventionnisme, l'espèce de côté impérialiste, au fond, hein, de l'Occident, et notamment des États-Unis, est remis en question sur le fait que, justement, l'action des pays occidentaux dans cette zone-là a pu être pernicieuse. Donc ça, c'est très important, parce que ça remet en question vraiment toute une... C'est pas seulement de la politique étrangère. C'est vraiment une conception presque culturelle, dont on voit d'ailleurs encore les conséquences aujourd'hui. Donc je pense que sur ce plan-là, Jacques Chirac a eu vraiment une action importante dans les esprits, si vous voulez.
Et Raphaël Baquet, le musée du Quai Branly, c'était pas forcément une évidence pour les Français.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que dans le choix de Chirac, c'est qu'il a choisi justement de faire un musée qui correspond à ses convictions profondes. Donc, encore une fois, c'est un homme qui s'est intéressé à d'autres cultures, et y compris à des cultures éloignées de la culture occidentale. Et il a fait ce musée des arts premiers, et il correspond à une philosophie que le président avait affirmée.
Alors, merci de nous recevoir ici à l'Élysée pour parler d'une de vos passions, les arts premiers, les arts des civilisations non européennes, et qui sont donc accueillis par le nouveau musée du Quai Branly. Que représente, monsieur le président, pour vous, la prochaine ouverture de ce musée pour lequel vous avez œuvré pendant plus de 10 ans avec beaucoup de force et de conviction?
Ça représente d'abord, naturellement, une grande joie. C'est aussi le signe et le symbole d'une France qui connaît et reconnaît les cultures du monde et les exigences du dialogue de ces cultures. Ce musée du Quai Branly, d'une certaine façon, c'est aussi la reconnaissance de la diversité culturelle, de ce qu'elle apporte au monde d'aujourd'hui et de ce en quoi elle est nécessaire, ne serait-ce que pour le respect de l'homme et pour la paix. Le respect des uns, des autres et de leur culture sont essentiels.
Alors nous connaissons depuis longtemps votre passion pour ces cultures, pour ces arts venus d'ailleurs. Que souhaiteriez-vous que les visiteurs ressentent lorsqu'ils vont découvrir ?
Enfin, on a un troisième groupe, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Où là, on est dans un autre mode, on est dans une relation à l'histoire où l'histoire, en définitive, c'est un handicap, c'est une gêne, c'est un boulet, c'est ce qui fait qu'on ressasse les haines intérieures, la lutte des classes, extérieures, la rivalité avec l'Allemagne, au lieu de passer à l'avenir, de construire l'avenir.
Écoutez, je vous demande pardon, encore deux questions et c'est terminé pour l'intérieur.
Fourneyron, le progrès de Lyon. Monsieur le Président, les résistants de la région Rhône-Alpes ont été péniblement surpris d'apprendre que Paul Touvier, qui s'était tristement illustré dans notre région et qui a été condamné deux fois à mort, avait bénéficié d'une grâce présidentielle. Est-il indiscret, Monsieur le Président, de vous demander les raisons qui ont motivé votre geste ?
Je vous remercie de votre question. Si vous ne l'aviez pas posée, je l'aurais soulevée. Tout d'abord, les faits.
Un autre moment très significatif de ce rapport à l'histoire pour les présidents, c'est la grâce de Paul Touvier. Le 23 novembre 1971, Paul Touvier, chef du 2e service de la milice de Lyon, qui a activement participé à la persécution des Juifs et à la lutte contre la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, obtient la grâce du président Pompidou par l'entremise de ses appuis ecclésiastiques. Une mesure restée très confidentielle à l'époque. Ce n'est qu'en juin 1972 que le journaliste Jacques de Rogy révèle publiquement l'affaire. Face à l'incompréhension générale, le président Pompidou est appelé à s'expliquer.
Et si je ne peux ni ne veux revenir sur cette décision, je puis par contre vous indiquer quelques réflexions que m'ont inspiré les réactions que j'ai reçues. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs, la libération, par contre-coup l'épuration et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs des deux côtés. Et l'exode d'un million de Français chassés de leur foyer. Et du coup, l'OAS et ses attentats et ses violences. Et par contre-coup, la répression. Alors, allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux ? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient. Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Dernière question, monsieur, nous passons à la politique étrangère.
Comment vous l'analysez-vous, Émilia Robin, cette réponse de Georges Pompidou ?
Georges Pompidou choisit de gracier Touvier. Touvier est un haut fonctionnaire français qui a collaboré activement. Et en 71, la question de la grâce de Touvier, qui avait été condamné pour collaboration et complicité avec l'occupant, se pose. Il avait été condamné à mort par contumace. Donc la question est de maintenir ou non cette condamnation. L'on est 30 ans après les événements et toute la question est de savoir si cette exécution aurait encore la portée symbolique qu'elle aurait eue au moment où le jugement a été prononcé. Et Georges Pompidou fait le choix de gracier Touvier, de ne pas l'exécuter, parce que l'exécuter serait réouvrir des blessures qui, avec le temps, se sont atténuées. C'est concomitant à une époque où l'on ne parle pas encore beaucoup. Il y a une sorte d'omerta. La chanson « Nuits et brouillards » de Ferrat à l'époque parle de ce silence et du fait que l'on dit aujourd'hui que ces mots n'ont plus cours, que nous l'on ferait mieux que de sortir des chansons d'amour. Ça renvoie à ce contexte où il y a des mémoires qui commencent à s'éveiller dans un contexte général où l'on refoule et où l'on aimerait tourner la page sur une époque dont certains ont été compromis. Dans le cas de Georges Pompidou, le choix est de ne pas rajouter une mort à une liste déjà très longue de morts.
Émilia Robin, vous êtes directrice des études à l'Institut Georges Pompidou. On peut dire de lui, de Georges Pompidou, que c'est un président bâtisseur. En tout cas, il a laissé sa trace, notamment à Paris.
Oui, clairement, Georges Pompidou a mené à bien une série de grands projets dont le but était de réorganiser et restructurer la France pour en faire une grande puissance industrielle, économique et industrielle. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement un bâtisseur. On se souvient très bien de l'aspect directement architectural, effectivement, avec les grands projets urbains, mais cela va de pair également avec des grands projets sur un plan industriel. Dans le domaine urbain, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la France de 1960, on va dire, est complètement sous-équipée en termes de logement. La campagne de l'abbé Pierre en 54 contre le mal-logement répond à une urgence immédiate, mais correspond à une réalité française. Et dans les années 60, les objectifs du gouvernement sont de construire de l'ordre de 300 à 500 000 logements par an. Et c'est dans ce cadre-là que l'on suit ce qu'il semblait être la méthode idéale à l'époque, à savoir les grands ensembles. On pense à la muraille de Chine à Saint-Étienne, aux villes nouvelles à proprement parler, et à l'ensemble des bars et tours qui datent des années 60, qui ont été construits dans cette idée de créer massivement des logements, de loger également l'ensemble des rapatriés d'Algérie, et d'absorber la croissance démographique française. Il faut se rappeler qu'il y a 40 millions d'habitants en 40, mais qu'il y en a 50 à 55 millions en 75 qu'il a fallu loger, d'où ces programmes de construction.
Et puis bien sûr, ce qu'on va retenir de la présidence de Georges Pompidou, c'est la création du Centre Beaubourg.
Le projet du Centre Pompidou, qui est un projet ancien qui remonte en fait aux années 50. Claude Pompidou le raconte, quand il rentrait en voiture de la banque, il passait devant ce qui était l'espèce de friche du quartier Beaubourg, où des bâtiments insalubres avaient été détruits, où il y avait une espèce de grand parking qui servait juste de parking. Et il disait rêver d'un lieu où l'on aurait à la fois une galerie d'art, de la musique, une bibliothèque, c'est-à-dire quelque chose de très novateur. Dans son projet de ce qui sera le Centre Pompidou, il y a toujours le centre de création industrielle, donc il souhaitait qu'il n'y ait pas ces compartimentages rigides entre les arts et entre finalement l'artistique pur et l'économique pur, mais qu'il puisse y avoir des échos, des dialogues entre tout cela. Et donc c'est ce qu'il a souhaité en lançant le concours pour le Centre Pompidou. Concours d'architecture qui verra de l'ordre de 700 réponses peut-être, avec un jury indépendant dans lequel il n'interviendra pas. Et c'est perfide, je crois, qui raconte que quand il a vu ce qui avait été choisi, il a été quelque peu suffoqué, je cite. Ce n'était pas forcément son premier choix. Le Pompidolium ou Notre-Dame des tuyaux n'était pas forcément ce que Pompidou lui-même aurait souhaité. Mais dans la mesure où il a souhaité un concours indépendant, il a accepté le choix du jury et a soutenu le projet.
Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le gai Paris, c'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle.
Bernard Heisenberg, vous étiez le conseiller à l'industrie auprès de Georges Pompidou. On peut dire de lui que c'était un président bâtisseur.
Il avait cette préscience que sans puissance industrielle, la France ne pourrait pas continuer à rayonner comme elle avait fait du temps du général. Il fallait qu'il substitue à la présence du général et à ce qu'elle apportait à la France une forme de puissance économique qui lui permettrait de continuer à être respectée. Alors on a parlé de colbertisme, c'était pas du tout du colbertisme. En fait, l'État était dans certains cas mieux placé que les entreprises pour sentir les tendances lourdes, lointaines de certains domaines, du spatial, qui démarrait à l'époque, de l'aéronautique. Et donc c'est l'État qui pouvait impulser le secteur, les entreprises, la recherche. Et donc où l'Airbus a été lancé à son époque. C'est l'époque où Ariane naissait. Il a été à l'origine, avec son ministre de l'Industrie de l'époque, il a lancé le TGV. Alors un élément qui démontre l'intérêt qu'il portait à la chose industrielle et scientifique. Un jour, j'ai été convoqué par Michel Joubert, secrétaire général de l'Élysée, qui m'a dit « Heisenberg, il faudra organiser un vol du président sur Concorde, qui était à l'état de prototype. » Et donc on a volé à Troyes dans un prototype, piloté par Turca, le célèbre pilote d'essai du Concorde, et nous sommes montés sur la Manche. Et nous étions assis sur des sièges en tubulure à côté d'appareils de contrôle. Il s'agissait d'un appareil expérimental. Et Georges Pompidou a tenu à faire ce vol pour montrer sa confiance dans la technologie française aéronautique. Il a lancé le programme nucléaire civil. Il a lancé le plan calcul. Dans quasiment tous les grands domaines un peu futuristes. Mais pour le bien-être, le confort des Français, et d'ailleurs les Français l'ont bien senti. Je crois qu'il a eu un taux de popularité de 60% du début de son mandat à la fin, parce que je pense que les Français lui ont su gré de ce qu'il aura apporté, c'est-à-dire une forme de bonheur lié bien sûr aux avantages matériels des développements qu'il a créés avec l'entrée dans la société de consommation. Mais aussi du fait que le bonheur lié quand même aussi au fait qu'il a maintenu la place de la France dans le monde après le général de Gaulle, ce qui n'était quand même pas absolument évident.
Bâtisseur face à l'histoire, avec Laurence Cosset, Patrick Garcia, Michel Cotta, Raphaël Paquet, Bernard Heisenberg et Émilia Robin. Merci au comité d'histoire du ministère de la Culture et tout spécialement à Guillaume Bourgeois. Prise de son François Rivalan, un documentaire de Christelle Bolotec et Vincent Deck pour la série documentaire.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez revisiter l'Arche, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour l'Opéra ou nous réécouter avant le Conseil des ministres, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire qui propose par abonnement du docu d'auteur à foison. Demain, dernier épisode, le président au risque de l'intime.